Bienvenue dans la Cour des comptes à régler. Cécile Blanche est avec vous pendant environ 45 minutes. Je continue en cette nouvelle année sur les femmes. Dans les émissions précédentes et grâce à Françoise Héritier, nous avons pris quelques exemples de l'inégalité de traitement des hommes et des femmes dans toutes les sociétés. Enfin, je ne suis pas allée interroger les Bushmen qui passent pour être tous heureux. Mais dans tout ça, comment inverser les tendances? Alors, je me suis interrogée sur une éventuelle différence biologique qui expliquerait les différences de performance attribuées aux hommes et aux femmes, et en particulier au niveau du cerveau. Grâce aux récentes techniques d'imagerie médicale, c'est fou ce qu'on a appris sur le fonctionnement du cerveau. Ça a stimulé plein de recherches, aussi bien physiologiques que psychologico-sociales, avec enquêtes, statistiques, etc., etc. Voilà ce qui en ressort. Et tout ça, je l'ai pioché dans divers ouvrages et articles sur lesquels je suis tombée parfois par hasard, parfois en cherchant sur Google, ou que j'avais dans mes tiroirs depuis un certain temps. Mais à vrai dire, une chercheuse domine dans ce que je vais vous dire. C'est Catherine Vidal, neurobiologiste de l'Institut Pasteur, qui, infatigable messagère, fouille toutes les données scientifiques qui pourraient répondre à la question « Est-on légitime quand on parle de différence entre hommes et femmes ? Et s'il y en a une, sur quoi reposerait-elle ?» Catherine Vidal a participé à des ouvrages comme « Cerveau, hormones et sexe », elle multiplie les conférences, dont une intitulée « Mon cerveau a-t-il un sexe ?» que Laure de la Salle a transformé en documentaire. Tout ça en espérant faire changer les points de vue sur les femmes. Allez, un peu de musique avant de se lancer dans des explications plus ou moins ardues.
Εσύ στεριές και θάλασσες, τα δέντρα εκεί, χρυσές ελιές. Ακούτε τα χαμπέρια μου, μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να του τον αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να του τον αγαπώ. Από τη μέση του εγκρεμού στη μέση τα λουπέδα μου κόκκινα, κίτρινα, σπαρτά νερά, πράσινα κι απατά. Κόκκινα, κίτρινα, σπαρτά νερά, πράσινα κι απατά. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να του τον αγαπώ. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να του τον αγαπώ. Με τα μικρά μήνια του, καβάλα στα δελφίνια του, με τις κοπέλες τις γυμνές που καίγονται στις αμμουδιές, με τους λοξατούς πετυλούς και με τα κουκουρικού του. Μόνο να του τον αγαπώ, σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνο να του τον αγαπώ. Thank you. και την ανοίγω.
Alors, que nous dit Catherine Vidal? Est-ce que la différence est biologique? Est-ce qu'on peut, avec les techniques d'imagerie cérébrale associées à divers tests, lever le doute ou préciser la différence entre les hommes et les femmes? Ce à quoi on pense en premier, c'est aux chromosomes X et Y, ces fameux chromosomes qui déterminent le sexe. Là, on ne peut nier la différence. Le chromosome Y est bien là pour donner un mâle plutôt qu'une femelle. Et on trouve des différences qui concernent les fonctions reproductives. Il y a dans le cerveau féminin des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation, ce que l'on ne retrouve pas dans un cerveau masculin. Mais la différence s'arrête là. Le développement du cerveau ne dépend pas des chromosomes sexuels. Et d'ailleurs, parenthèse, vous savez que notre corps est imprégné d'hormones. Et en particulier d'hormones sexuelles. Traditionnellement, on parle d'estradiol pour la femme et de testostérone pour l'homme. Les deux influencent notre comportement et nos humeurs. Et voilà que les deux se retrouvent dans les cerveaux aussi bien masculins que féminins. On a même démontré que chez les rats et les cailles, c'est l'estradiol qui déclenchait le comportement d'accouplement. Où allons-nous? Bon, alors sur quoi repose la différence que la majorité des individus de notre monde attribuent aux deux sexes? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les données à la base. Premièrement, il faut savoir que le cerveau d'un bébé contient un stock d'à peu près 100 milliards de neurones. Pour fonctionner, ces neurones doivent se connecter entre eux. Or, à la naissance, il n'y a seulement que 10% de connexions qui sont réalisées. Ce n'est que peu à peu que les connexions se construisent. N'oublions pas que chez les humains, la croissance du cerveau dure 7 ans. Et c'est au cours de ces années que les connexions se multiplient, au gré des influences de la famille, de l'éducation, de la culture, de la société. C'est ainsi que chez l'adulte, on arrive à 1 million de milliards de connexions. Deuxièmement, on parle du comportement inné des hommes et des femmes, d'une différence innée, donc attribuée à la nature. Qu'en est-il de cette innéité chez les humains? Vous avez entendu parler de Victor, l'enfant sauvage aveyronnais. Il marchait à quatre pattes quand on l'a retrouvé alors qu'il avait aux environs de 10 ans. Pourquoi, en tant que homo sapiens, donc bipède, n'est-il pas sur ses jambes? Eh bien là, on aborde un problème qui agite scientifiques, philosophes et intellectuels de tout poil. Sommes-nous nature ou sommes-nous culture? Certains prétendent que l'homme a perdu ses réflexes innés pour tout apprendre au travers de la culture, de la société, bref, de son environnement humain. Moi, je n'irai pas jusque-là. Nous avons une partie du système nerveux appelée hypothalamus, la structure la plus primitive de notre cerveau que nous partageons avec tous les vertébrés. C'est cet hypothalamus qui nous permet d'assurer de façon innée la satisfaction de besoins essentiels comme la faim, la soif, la sexualité. Mais à part ça, il faut reconnaître que nos comportements ont beaucoup à voir avec notre histoire personnelle. Et c'est ce que confirment les études du cerveau avec les moyens actuels d'investigation. Ça va? Vous suivez? Je vous propose un premier conte, léger, pour changer, avant d'aborder ce que démontre point par point Catherine Vidal. Le pantalon, extrait de Contes des femmes qui veillent. Nicolas rentre tous les soirs de sa charrue à sa ruche, où bourdonnent sa femme, sa fille, sa mère, sa sœur, toutes à éplucher et laver, touiller, frichetir, fourbir. Et notre gentil bourdon, là-dedans, content, laisse la terre au grattoir et prend les patins. Fourbu le soir, il plie son couteau après le dernier croûton, va trafiquer un peu son coin de feu à replacer les bûches et se prendre un brandon pour s'allumer sa pipe. Tranquille, il tire un bout de temps. Et bonsoir la compagnie, bonsoir les fées, au lit, comme une souche, bonne nuit. Un jour, il hérite du pantalon de l'oncle, quasi neuf, mais trop long. Il se marche dessus. Il demande à sa femme, « Macha, tu ne voudrais pas me le mettre à ma longueur ?»« Nico, tu vois bien que je lave. Pose-le sur la chaise. Je t'arrangerai ça demain. » Le bonhomme reprend le pantalon et tourne et vire. « Maria, ma mère, tu ne pourrais pas juste quelques points pour me raccourcir mon... Nicolas, mon fils, je n'ai pas fini ma vaisselle. Pose-le donc sur la chaise. Je verrai à te faire ton affaire demain. »
Demain ?
Il glisse doucement sur ses patins.
Mariochka, petite sœur, tu ne pourrais pas enfiler juste une aiguille parce que mon pantalon en bas...
Demain, Nico, tu vois bien que je n'ai pas fini. Pose-le sur la chaise.
Peut-être. La petite s'il lui demande gentiment « Maroussia, ma mignonne, juste trois petits points vite fait pour me raccourcir les jambes. »
« Petit père, j'aurais bien voulu, mais maman m'a donné à repasser. »
« Bon alors, bonsoir, je m'en vais dormir. »
Maroussia a plié tout son linge,
puis se dit que « Tiens, petit père sera content. » Elle sort sa boîte à ouvrage, évalue d'une main coupe et faufile et ourle à grands poings et remet sur la chaise.
Passe Mariocha,
il me l'a si gentiment demandé.
La mère a tant d'ouvrage et grand-mère n'y voit plus.
Une largeur de main, il me semble.
Elle coupe, faufile et ourle, tapote pour bien aplatir le tissu et remet sur la chaise.
Maria redresse son dos fatigué.
Et là, sur la chaise, le pantalon du gamin. Ça lui donne un regain de lui faire plaisir. Il est si gentil.
La boîte, une main, coupe et faufile et ourle à petits points de vieille, bien fignolé, régulier.
Le lui repose sur la chaise.
Tout est en ordre à la maison. Tout brille. Macha fait un dernier tour d'horizon. Dernière couchée, recouvre les braises, et là, sur la chaise, le pantalon de Nicolas.
Allons, vite fait, bien fait. La boîte, une bonne main, au pif, elle coupe, faufile, ourle, repasse, et repose le pantalon.
Le cher homme dort comme un bûcheron.
Et c'est ainsi que le lendemain, aimé et soigné par tant de femmes, Nicolas se retrouve en culotte courte.
Si je n'avais pas ouvert les yeux, grâce à toi, mon père, aurais-je quand même un jour vécu? Pas pris l'air près de ton souffle, ma tendre mère, mon âme serait-elle devenue? Que faut-il croire dans ces histoires que l'on raconte? Que faut-il voir dans ce reflet que l'on affronte? Y en a qui disent qu'il n'y a rien d'autre, qu'il y a un autre chemin. Que l'on revient. Y en a qui disent que c'est divin, d'autres que l'on renaît en chien. Que disent les lignes de la main? Ah. n'aurais pas posé mon cœur sur le mot aimer. Je n'aurais pas peur de tout quitter. Si je n'avais pas osé ces choses que l'on ne regrette jamais, vieillir me ferait rigoler. Que faut-il voir dans ce destin que l'on espère? Que faut-il croire pour ignorer ce goût amer? Y en a qui disent qu'il n'y a rien, d'autres qu'il y a un autre chemin. Y en a qui disent que l'on revient. Y en a qui disent que c'est divin, d'autres que l'on renaît en chien. Que disent les lignes de la main? Y en a qui disent qu'il n'y a rien, d'autres qu'il y a un autre chemin. Y en a qui disent que l'on revient. Y en a qui disent que c'est divin, d'autres que l'on renaît en chien. Que disent les lignes de la main?
La bataille fait rage dans les milieux scientifiques entre les tenants de la différence et les tenants de l'égalité. Et quand on sait comment les travaux scientifiques, leurs résultats, sont influencés par les dogmes véhiculés par la culture de ces scientifiques, il y a tout lieu d'être très circonspect. C'est ce qu'a démontré en particulier Stéphane Jégould dans son ouvrage « La malmesure de l'homme ». Il a repris tous les résultats scientifiques depuis plus d'un siècle sur deux points. Le QI, c'est-à-dire quotient intellectuel, très utilisé par les Américains du Nord, et le développement du cerveau. Ces deux points ont servi de base à la définition de race et aux discriminations que nous vivons encore tous les jours. Stéphane Jégould démontre sans ambiguïté que les recherches scientifiques et leurs résultats sont imprégnés par les croyances et les dogmes des sociétés qui les produisent, ce qui biaise la réalité après laquelle courent tous ces scientifiques et penseurs qui fouillent inlassablement notre psyché. De plus, à contrario, si les résultats d'une recherche, comme le dit Henri Laborie, dans l'introduction à son livre « La nouvelle grille », ne s'intègre pas facilement dans les schémas culturels connus, quand elle ne favorise pas un courant d'opinion existant déjà, une idéologie politique ou socio-économique en vogue, elle ne peut être prise au sérieux. Celui qui l'exprime ne fait pas preuve d'un humanisme de bon aloi. Cet humanisme qui ne dérange rien, qui fait appel aux grands ancêtres, à la culture en place, c'est-à-dire l'ensemble des préjugés et lieux communs d'une société et d'une époque. C'est pourquoi les scientifiques, c'est eux qui aujourd'hui font autorité pour exprimer ce que nous sommes, ont tant de mal, comme Catherine Vidal, à faire basculer le socle de certitude sur la différence entre les sexes. Ainsi, les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, proche de la taille de celui des noirs et des singes. C'est le célèbre professeur Broca, qui par ailleurs, autant que je me souvienne, a détecté dans le cerveau les aires du langage, qui le déduisait de la mesure de quelques crânes. Ce qui confirmait sa croyance, puisqu'il disait « Il ne faut pas perdre de vue que les femmes, en général, quand même, petite nuance, sont moins intelligentes que les hommes. » Car, bien sûr, dans son esprit, l'intelligence était liée à la taille du cerveau. Plus il était gros, plus on était intelligent. Cette affirmation, aujourd'hui, a été balayée par un grand nombre de comparaisons faites ultérieurement. L'exemple le plus célèbre étant celui du cerveau d'Einstein, dont le poids se situe dans la prétendue moyenne de celui des femmes. Autre chose, Les hommes, dit-on, sont plus doués pour les maths que les femmes. Des tests ont été conduits en soumettant des étudiants, garçons et filles, à des épreuves de représentation dans l'espace. Si on annonce au départ que c'est un test de géométrie, le score est meilleur chez les garçons que chez les filles. Mais si on annonce que c'est un test de dessin, il n'y a plus de différence. Pourquoi ? Parce que les filles ont intégré ce lieu commun qui dit que les filles sont moins douées pour tout ce qui est maths que les garçons. Pour finir, je vais citer cet exemple où garçons et filles ont été soumis à un test de calcul mental sous contrôle IRM. Et là, on voit que pour un même résultat, un bon résultat, disons, les zones du cerveau qui sont sollicitées, et donc visibles en IRM, sont très variables, qu'il s'agisse de garçons ou de filles, la variabilité étant aussi importante chez les garçons que chez les filles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une variabilité individuelle et non pas une différence entre les genres. D'ailleurs, aujourd'hui, où les femmes dominent avec succès dans beaucoup de formations à des professions traditionnellement considérées comme exclusivement masculines, le problème ne se pose même plus.
Je ne voyais pas ta chair comme de la tôle froissée. Tu n'aurais pas dû te taire. T'aurais pu quand même te confier. Je n'aurais pas dû te laisser faire ces choses qui t'ont plombé. Tu sais, tu n'avais pas l'air d'être autant largué.
Toujours extrait des contes des femmes qui veillent.
Un garçon et une fille, profitant du printemps qui arrive enfin, ont choisi la date de leurs noces et descendent de leur colline pour aller à la ville faire leurs emplettes et chercher le trousseau, le linge de la maison, les ustensiles de cuisine et toutes les bricoles nécessaires pour vivre heureux en ménage. Sans oublier le sel. Et puis surtout, une certaine soie verte comme les prés, en long métrage pour la robe de la mariée. Elle la veut longue, juponnée, et comme ceci, et comme cela, avec un bustier et tous les plis et les volants qui la feront reine de la noce. Les voilà chargés comme des baudets, contents et fiers. Ils remontent chez eux en écoutant le rossignol à la nuit qui tombe. « Quand ? Ah, mon Dieu ! Mais qu'as-tu, ma Fanchon ? J'ai que nous avons oublié le fil. J'ai oublié le fil. Et ma robe ne peut se coudre. Voyons, du fil, on en trouvera là-haut. Il y aura bien du fil chez l'aïeul. Non, il me faut du fil vert, de ce vert de ma soie, pas un autre. Un autre, je ne peux. Il nous faut redescendre tout de suite. On y va, Fanchon, allez, on y va. Et déjà, bien avancé pourtant, on redescend avec le barda, les draps, les torchons, les serviettes, les cuvettes, les fourchettes et toutes ces emplettes. Au diable ce maudit fil vert! Quand, là, sur le bas-côté, une fusette de soie, de cette soie verte exacte, là, au pied d'un arbre, comme les guettants, semble les attendre? Fanchon n'hésite pas. Mais lui se dit tout net que non, cette fusette n'est pas catholique. Si quelqu'un l'a perdue, quelqu'un va la chercher. Non, on ne fait pas ça. On ne doit pas faire ça. Si, dit Fanchon, non, si. Bon, finit par céder le fiancé. Une fois rentré, il déballe. Il range, il jacasse, s'embrasse. À demain! Et le lendemain, la fille se met à l'ouvrage, taille ensemble et coud sa robe pour le samedi qui vient. Samedi, dans l'église en lumière, le fiancé cravaté, gominé à l'autel, attend sa promise. Elle apparaît sous le porche, au bras de son père, comme un feuillage tendre traversé de soleil. Les ordres entament la marche des épousailles. La mariée trempe le bout de ses doigts dans le bénitier. Et, fout, le temps d'un petit signe de croix, la robe se découd. Plus de fil vert. Et seulement, à ses pieds, le tissu tout froissé, là, comme une laitue paumée. Remarquez bien que la mariée n'était pas nue. Elle fit sa noce en jupon. Mais depuis, hors de la maison, gentiment mais fermement, c'est son mari qui porte le pantalon.
À chacun son chemin, la liberté se jette au delta au-delà. L'océan reflète, on dit que tout est grand, à y perdre la tête, on y goûte un instant et dedans, tout s'émiette. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête, je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent, ici-bas elles se gavent de ferraille, de plastique, d'argot, de betterave et d'amour synthétique. Devant ce grand festin, la liberté regrette. Les brebis ont vomi, l'indigestion les guette. Qu'y a-t-il donc après? Plus rien. Les brebis sont tentées par les sentiers divins, crapahutées là-haut, pendant les transhumances. Dans l'auberge il fait chaud, elles remplissaient leurs panses de sermons asservis, sans une prière et au lit, sans. sans s'inquiéter du temps, sans redouter l'errance, le pasteur rabâchant ses conseils de prudence. Mettez-vous ça dans la tête, les brebis ne sont pas faites pour apprécier le large, pour apprendre à voler, gambader dans les marges, aimer la liberté. Tôt ou tard, tout penaud, on rejoint le troupeau. À chacun son chemin, la liberté se jette au delta au-delà, où l'océan reflète. On dit que tout est grand, à y perdre la tête. On y goûte un instant et dedans tous ces miettes. J'ai choisi mon chemin, ma liberté, ma quête. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. Ici-bas, elles se gavent du premier fanatique, levant le sourcil grave ou le doigt prophétique. Je ne m'en fais pas pour moi, mais les brebis m'inquiètent. On les a déjà vues foncer à l'aveuglette quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule du loup. Quand elles ont peur de tout, droit dans la gueule.
Alors, s'il n'y a pas de différence biologique, d'où nous viennent les différences de comportement entre filles et garçons et les certitudes qu'ils véhiculent? On va revenir au fait que je signalais au début, que à la naissance, si le bébé possède un stock, son stock de cellules nerveuses, seulement 10% de connexions entre eux sont réalisées. Or, ce sont ces connexions qui nous font nous comporter dans notre environnement. Et elles s'établissent tout au long de la croissance du cerveau et de l'individu qui le possède, jusqu'à 7 ans. C'est pendant cette période où l'enfant est dépendant des adultes que le cerveau tire des expériences vécues, ce qui va lui permettre des comportements adaptés au milieu dans lequel il vit et composer avec ses propres pulsions. Et ce milieu, c'est la famille, la culture, l'éducation. Heureusement, le cerveau est doué d'une grande plasticité, c'est-à-dire qu'en permanence, de nouvelles connexions se produisent au gré de nouvelles expériences que peut faire l'individu. Et ce, quasiment jusqu'à notre mort. Le cerveau se structure, se modifie, c'est une reconstruction permanente de ce que nous sommes. C'est là l'excellente nouvelle. Rien n'est gravé dans le marbre. Nous pouvons tous et toutes évoluer et faire évoluer autour de nous les mentalités. Alors, au boulot!
Sac de dame ouvert en grand, cheveux coiffés n'importe comment. Pourquoi je m'enfuis, pourquoi je m'en fous? Je marche même pas dans les clous. Pourquoi je m'arrête? Le ciel est lourd, les yeux fixes regardant nulle part. Pourquoi je vais jamais nulle part? Pourquoi je m'arrête? Pourquoi je m'inquiète? Le ciel est lourd, le ciel est lourd. Je serai pas là à m'évanouir. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai pas mes lunettes noires? Je serai pas là à m'enfuir. Mes lunettes noires, ma belle jaguar, et je serai peinard. Dans mon cinéma permanent, du grand, du vrai cinéma. Pourquoi je reste sur le trottoir? Je vois des bateaux mais je vais nulle part. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi je rentre pas chez moi?
chez moi c'est tout petit et c'est froid. Alors avant d'allumer le gaz, j'allume la télé, mais ça m'embrasse. Je garde jamais un boulot parce que je veux tout sur un plateau. Pourquoi, pourquoi? Parce que je suis la reine d'Angleterre qui attend son prince charmant. Parce que je suis la reine si je veux. Et si tu le vois pas, c'est vraiment que t'as de la merde dans les yeux.
Dernier conte. Où est la côte ? Conte d'Islande.
Il y avait une fois un couple qui vivait dans une ferme. Ils avaient beaucoup d'enfants, mais peu de domestiques, ce qui ne leur coûtait pas cher. Ils étaient pourtant aisés, mais le paysan avait la réputation d'être très avare. Il avait coutume d'apporter lui-même, chaque fois, ce que sa femme devait cuisiner, et d'en vérifier la quantité dans la marmite. Tout était à l'avenant, et sa femme avait du mal à supporter son avarice. Un jour, le paysan fit semblant de devoir s'absenter pendant 2 jours. Dès qu'il est parti, sa femme ordonne au berger d'amener les moutons à la ferme. « Je vais choisir le plus beau, l'abattre et apaiser de la sorte la faim de mes enfants et des domestiques. » Le berger obéit et le mouton est abattu, cuit dans la marmite et mangé de bon appétit le soir. Après le dîner, quand tout est rangé, on frappe à la porte. La femme se demande qui donc pouvait être ce visiteur du soir, car ce n'était pas l'habitude. Avant d'ouvrir, elle se montre prudente et demande « Qui va là ?» Le paysan répond sans hésitation « Mais c'est moi, voyons, ton mari !» Elle ouvre la porte et s'étonne qu'il soit revenu plus tôt que prévu. Le paysan ne répond rien, mais il se dépêche d'entrer et une fois arrivé dans la salle, il observe tout minutieusement, sans toutefois découvrir quoi que ce soit d'inhabituel. À ce moment-là, un des enfants passe devant leur lit. Il tenait à la main une côte de mouton rongée. Le paysan lui arrache la côte des mains et la regarde attentivement. « D'où vient cette côte-là » La femme répond qu'elle l'ignore où l'enfant l'a trouvée. « Peut-être sous le lit ou derrière ?» Le paysan rétorque qu'il est impossible que cette côte soit restée longtemps dans la poussière, car elle est toute fraîche. « Ma foi, dit sa femme, je n'en sais rien. » Puis elle invite son mari à manger. Il ne répond pas, mais répète « Alors, d'où vient la côte ? Je t'en prie, mon mari, ne reviens pas sur cette côte. Mange plutôt, car tu te fais du mal en ne voulant rien manger. » Elle lui suggère alors d'aller se reposer. Mais il est de très mauvaise humeur. Et à tout ce qu'elle lui propose, il répond invariablement « Alors, d'où vient la côte ? il finit par se traîner jusqu'au lit. Le lendemain matin, il ne se lève pas. Il reste couché, à gémir tout haut pendant plusieurs jours. Puis, il mourut. Sa femme envoie alors le berger chez le pasteur, le maire de la commune et d'autres paysans importants de la région leur dire que son mari était décédé et les prier de venir chez elle, car il fallait qu'elle leur parle de l'inhumation. Le berger s'en va et les hommes qu'elle avait fait chercher arrivent. Elle les invite dans la salle où se trouve le corps et leur dit qu'elle est obligée de faire appel à eux pour enterrer son mari au plus vite, étant donné que la ferme n'est pas grande et qu'il lui était difficile de garder le corps bien longtemps. Elle leur demande aussi de se charger des funérailles et de ne lésiner sur rien afin que son mari soit enterré honorablement. Elle les dédommagerait pleinement. Ils lui promettent tous de l'aider et font en sorte que le paysan soit rapidement mis en bière et transporté à l'église. Le pasteur dit l'oraison funèbre, puis on se rend tous ensemble au cimetière. Mais quand le cercueil est dans la fosse, la femme s'en approche et dit brusquement « Mais quelle mouche t'a donc piqué pour que tu te fasses enterrer vivant ?» Le paysan répond dans son cercueil « Alors, d'où vient la côte ?» Du coup, on remonte le cercueil, on l'ouvre et on donne à manger aux paysans qui étaient considérablement affaiblis. Le pasteur et les autres dignitaires le persuadent ensuite de ne pas succomber à l'avarice, au point de rendre la vie pénible à ceux qui comptent le plus pour lui, ainsi qu'à lui-même. Cette mésaventure métamorphosa le paysan, qui devint un tout autre homme et consulta désormais sa femme pour tout. Après quoi, ils vécurent heureux ensemble, et on les considéra comme un couple honorable. Le paysan ne posa jamais plus de questions sur cette côte jusqu'à ce qu'il meure une seconde fois. De manière naturelle et convenable cette fois-ci.
Pour l'avenir ?
Oui, n'est-ce pas ?
Et c'est sur cette note optimiste que l'émission se termine.
L'illustration musicale était assurée par Angélique Natos et Katerina Fotinaki dans Essis Teris, La Mordue dans Les Lignes de la Main, Mélismel avec Les Brebis, Valérie Leliot dans Mon homme blessé et enfin Adrienne Poli dans Pourquoi.
La prochaine émission sur Radio Sud-Afrique aura lieu le 3 mars à 21h. Et nous ne lâchons pas les femmes, bien sûr. Nous allons parler des sorcières. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission de La Cour des comptes à régler lundi prochain, c'est-à-dire le 6 février à 10h, toujours sur Radio Sainte-Afrique, ou alors en podcast sur le site de cette radio bien-aimée. Et pour terminer, une petite phrase de La Fontaine. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour le mensonge. Bonsoir.